RFI, il est 14h10 à Paris, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques présenté par Céline Pellarin. Bonjour Céline.
Bonjour Chantal, bonjour à tous. En Haïti, à leur tour, les juges dénoncent le budget 2017-2018. Les magistrats sont en colère et ils sont en grève pour le faire savoir. C'est donc une semaine sans audience dans les tribunaux. Romain Lemaresquier, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Dans votre revue de presse Amérique, on parlera des incendies en Californie qui font la une des médias aux États-Unis. Également, on parlera du scandale Weinstein. Et la presse argentine rapporte le soulagement, ou plutôt l'euphorie de l'Argentine après la qualification de son équipe nationale au Mondial de football 2018. Ensuite, ce sera au tour de Sébastien Gédor de nous embarquer pour une escapade culturelle au Mexique. Le festival Cervantino qui ouvre ses portes aujourd'hui, avec comme invité d'honneur cette année la France. Et enfin, le journal des Outre-mer, comme chaque jour. Merci d'écouter RFI. Bienvenue dans votre rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, c'est donc une semaine sans audience dans les tribunaux. Les juges sont en grève depuis lundi et jusqu'à vendredi. Les magistrats savent que c'est un réel coup dur pour les justiciables et particulièrement pour les personnes qui, en prison, attendent d'être jugées depuis des mois, voire des années. Mais le secteur judiciaire veut marquer son mécontentement face à un cruel manque de moyens, déjà critiqué par l'opposition et nombre d'économistes. C'est encore une fois le budget national décidé par l'exécutif qui concentre la colère. Amélie Baron.
Le système judiciaire haïtien, déjà tristement réputé pour sa lenteur, est à l'arrêt depuis lundi en raison de la grève observée par les juges. Maître Wando Saint-Villiers, président de l'Association des magistrats, explique que la première de leurs revendications est leur indépendance, qui passe par une réévaluation à la hausse du budget alloué au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
La justice n'a jamais été une institution indépendante. La justice était sous le contrôle effectif du pouvoir exécutif. C'est l'exécutif qui décidait quel budget allouer à la justice. Avec l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Conseil arrive à établir un budget prévisionnel pour la justice. Mais là encore, depuis 5 ans, donc, les prévisions budgétaires du CSPJ n'ont jamais été prises en compte. Et cette fois-ci, les magistrats sont déterminés à ce qu'il y ait plus de moyens qui soient donnés au CSPJ pour que les tribunaux arrivent effectivement à faire leur travail.
Ce travail que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ne parvient pas à effectuer, c'est notamment la lutte contre la corruption.
Dans toutes les institutions de ce pays, malheureusement, il y a la corruption qui gangrène ce pays. De son côté, le CSPJ, comme organe d'administration et aussi de discipline, doit se mettre au travail pour sanctionner les magistrats qui ne font pas honneur au système judiciaire.
Mais pour faire ce travail, il faut de l'argent.
Tout à fait. Il y a une commission au niveau du CSPJ qui est appelée à faire un travail de certification de vetting au niveau des magistrats. Mais malheureusement, cette commission est bloquée par manque de fonds, manque de moyens. Donc de là, et non seulement on doit penser à des infrastructures au niveau des tribunaux, mais il faut aussi assainir, si je peux dire, utiliser ce terme, la magistrature. Mais ce travail de certification doit être fait par la commission qui n'arrive pas à fonctionner malheureusement pour manque de fonds.
Directement mis en cause par les juges dans cette crise qui les a poussés à la grève, le pouvoir exécutif se dit conscient de la gravité de la situation. Lucien Jura est porte-parole de la présidence.
Vu l'importance d'un pouvoir comme le pouvoir judiciaire, on comprend que la République entière est handicapée aujourd'hui. La porte du dialogue étant toujours ouverte aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont envisagées pour rencontrer les représentants du secteur et voir quelles perspectives ensemble on peut dégager, car dans le dialogue et la concertation, il y a toujours une voie vraiment royale ouverte sur les grandes solutions.
Le CSPJ avait demandé un budget de plus de 3 milliards et l'exécutif a donné moins de la moitié. C'est le dilemme aujourd'hui, il n'y a pas eu de négociation en amont.
Dans la vie, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Mais je crois aussi que quand il y a manifestation de bonne foi, même la partie adverse peut être suffisamment consciente des contraintes. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de nous asseoir et autour de la table de la concertation et de la compréhension, la solution sera trouvée pour le grand bénéfice de la nation.
La négociation avait lieu la semaine dernière et les deux ministres qui devaient signer un protocole d'accord ne se sont pas présentés avec les magistrats.
Cela doit se faire, cela se fera parce que c'est un impérium qu'on trouve une sortie de crise.
La présidence dit vouloir trouver une solution à cette crise qui paralyse la justice du pays, mais les détails sur les éventuelles négociations n'ont pas été précisés. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et on continuera à suivre cette crise en Haïti entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif, ainsi que la grogne contre le budget 2017-2018 dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. La revue de presse des Amériques, c'est avec Romain Lemaresquier. Et à la une aujourd'hui, les incendies qui continuent de ravager la Californie avec un bilan qui s'est alourdi. On parle de 17 morts et de plus de 150 disparus, sans compter les dizaines de milliers de personnes évacuées.
Oui, des incendies qui sont en une de toute la presse américaine. Une presse qui publie des photos très impressionnantes, que ce soit les flammes qui dévorent des maisons ou des zones qui viennent d'être réduites en cendres. Des images que l'on peut voir sur les sites du San Francisco Chronicle ou encore du Sacramento Bee. 17 différents foyers sont toujours actifs, principalement dans les comtés de Sonoma et de Napa, deux régions viticoles où les flammes progressent très vite, selon des témoignages publiés par le Sacramento Bee. Et c'est cette vitesse, selon le quotidien, qui aurait causé des décès, le feu ayant surpris des habitants dans leur sommeil. Heureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, à l'image de Roy, habitant de Santa Clara, qu'a pu rencontrer notre envoyé spécial Eric DeSalve.
Yeah. Oui, je n'ai pas voulu partir parce que j'ai essayé de sauver ma maison. Toute ma vie est ici. Les flics sont venus trois fois pour évacuer tout le monde. Ils ont presque défoncé les portes pour être sûr que plus personne n'était là. Mais moi, je suis resté pour tout arroser, pour empêcher que le feu prenne. Beaucoup de gens ont perdu leur maison, tout était en feu. Mon Dieu, nous recevions des braises sur les toits, par terre, de partout. Ouais, c'était dur, vraiment dur. Tout était en feu, c'était dur.
Alors, Donald Trump a finalement déclaré hier l'état de catastrophe naturelle et ordonné que l'aide fédérale vienne assister les secours locaux dans les zones affectées par ces feux de forêt, selon un communiqué de la Maison Blanche repris par le Los Angeles Times. Près de 4000 personnes, pompiers, secouristes, ONG, bénévoles et militaires sont mobilisés pour tenter de freiner ces incendies qui ont déjà brûlé plus de 46 000 hectares, réduisant en cendres plus de 2000 bâtiments.
Il reste encore un instant aux États-Unis avec cette affaire d'espionnage ou de piratage par des hackers russes, des documents de la NSA, la plus grande agence de renseignement américaine.
Et l'affaire vaut la peine d'être racontée, comme le détaille le New York Times ce matin. C'est l'histoire d'espions qui espionnent d'autres espions qui, à leur tour, sont espionnés. En fait, les services de renseignement israéliens sont parvenus à identifier comment des hackers russes qu'ils soupçonnaient de travailler pour les renseignements russes avaient pu s'introduire dans l'ordinateur portable d'un sous-traitant de la NSA et récupérer des documents expliquant comment l'agence américaine piratait des ordinateurs à l'étranger. Ces hackers russes passaient par le logiciel antivirus Kaspersky, un logiciel créé par la compagnie russe Kaspersky Lab, et que plus de 400 millions d'usagers utilisent quotidiennement, selon le quotidien. Cette intrusion se serait produite en 2015, un fait suffisamment grave pour que le département américain de sécurité intérieure donne l'ordre à tous les fonctionnaires fédéraux de désinstaller dans les 90 jours ce fameux logiciel.
Et puis il y a également, Romain, un scandale qui fait les gros titres aux États-Unis depuis le week-end dernier, les révélations concernant le plus grand producteur d'Hollywood, Harvey Weinstein, qui est accusé d'agression sexuelle, voire même de viol par certaines actrices.
Oui, et le scandale Weinstein s'aggrave, titre ce matin USA Today, suite aux dernières révélations, notamment celles d'Angelina Jolie ou encore de Gwyneth Paltrow. Des grandes actrices disent également avoir été harcelées par Weinstein, titre le New York Times, l'un des médias à l'origine des révélations. Une affaire qui prend des proportions jamais vues outre-Atlantique et qui ne concerne pas que le monde du cinéma américain selon les dernières révélations.
Et la presse américaine sort donc de nombreux témoignages sur les abus commis par ce tout-puissant producteur d'Hollywood. Correspondance à Washington, Dan Corpé.
La bande-son est glaçante. C'est un enregistrement fait à micro caché par la police en 2015 après la plainte d'une jeune actrice. On y entend clairement les avances d'Harvey Weinstein, très insistant. La plainte sera finalement classée sans suite et la réputation de la jeune actrice brisée. Les agressions répétées d'Harvey Weinstein étaient connues dans le milieu du cinéma, mais il a fallu plus d'une semaine après l'apparition d'une enquête de New York Times pour que ses victimes commencent à parler. Les plus grandes stars confient aujourd'hui avoir été harcelées par le producteur. Angelina Jolie, Rosanna Arquette, des Françaises également, comme Judith Godrèche ou Emma Decaune. Dans ces conditions, et malgré les centaines de milliers de dollars rassemblés par Harvey Weinstein en vue de financer sa campagne, le silence devenait de plus en plus intenable pour Hillary Clinton, qui a toujours défendu la cause des femmes. Dans une brève déclaration faite par son porte-parole, l'ancienne candidate à la Maison Blanche se dit choquée et consternée par les révélations sur Harvey Weinstein. Anne Corpet, Washington, RFI.
Direction à présent le Canada, plus précisément le Québec, qui suit de près l'actualité dans la péninsule ibérique, puisque cette province a toujours eu des velléités d'indépendance.
Et oui, l'éditorial de la presse est justement consacré à cette déclaration d'indépendance catalane, une indépendance suspendue dans la foulée par le président catalan, qui a eu la sagesse de jeter du lest, contrairement à l'État espagnol qui lui jette de l'huile sur le feu, selon l'éditorialiste de la presse. Les indépendantistes ont opté pour le dialogue, reconnaissant implicitement que la légitimité de leur référendum était contestée, pour la simple et bonne raison qu'elle était contestable selon la presse. Pour le quotidien, il leur était très difficile de convaincre quiconque de reconnaître la nation catalane sur de telles bases, mais l'État espagnol semble rester sourd aux appels des Catalans, une stratégie contre-productive qui lui permet, je cite, de mater les indépendantistes à court terme et qui risque fort de laisser des cicatrices à long terme. Les leaders indépendantistes catalans veulent mettre fin au dialogue de sourds, estime la presse. À Madrid, conclut le journal, on aurait tout avantage à les écouter.
Et on en parlait hier, toute l'Argentine était en haleine, crispée avant la rencontre face à l'Équateur hier soir. Dernière opportunité pour la bande à Messi de se qualifier pour la Coupe du Monde de 2018 en Russie.
Et oui, et si hier la presse argentine prévenait les supporters de l'Albicéleste que leur équipe risquait d'être absente lors de la Coupe du Monde en Russie, ce matin, après la victoire 3-1 des Argentins à Quito, le discours est bien différent. À la hauteur de Dieu, titre ainsi le plus grand quotidien sportif argentin Olé, référence faite à la superbe prestation de Lionel Messi, auteur des 3 buts à près de 3000 mètres d'altitude. Le génie de Messi nous envoie la Coupe du Monde, titre Clarine. Tous les rêves sont permis avec Messi, titre quant à elle la Gazzetta. Grâce à cette victoire, l'Albicéleste remonte de la 6e à la 3e place et se qualifie donc directement pour la Coupe du Monde de 2018.
L'Argentine exulte donc après avoir tremblé. Les grands battus de la soirée se nomment les États-Unis battus par la Lanterne Rouge, Trinité et Tobago 1-2. Le Chili, pourtant double vainqueur de la Copa América, n'ira pas lui non plus en Russie, battu par le Brésil sur un score de 0-3. C'est le plus grand festival des arts de la scène en Amérique latine, le Festival Cervantino. Un festival qui débute aujourd'hui à Guanajuato, dans l'état du même nom, c'est dans le centre du Mexique. Une ville qui va être prise d'assaut. Les organisateurs attendent 500 000 spectateurs jusqu'au 29 octobre pour assister à des spectacles de théâtre, de danse et de musique. Et cette année, c'est la France qui est l'invité d'honneur du Festival Cervantino avec 30 spectacles programmés, Sébastien Gédor.
Le festival Cervantino, le Cervantino comme on dit au Mexique, doit son nom aux pièces de Miguel de Cervantes jouées en plein air à partir du milieu du siècle dernier. Aujourd'hui, 3 semaines par an, la ville de Guanajuato, à 5 heures de Mexico, est le carrefour de la création artistique en Amérique latine. La directrice du festival, Marcela Diez, résume son ambition avec une belle formule.
Je dirais que c'est une recherche, un désir de mettre en contact la créativité des différents pays et surtout de faire valoir la place que la culture a pour nous faire des meilleurs êtres humains.
Cette année, 300 artistes français font le déplacement à Guanajuato, du jamais vu pour un pays invité au festival Cervantino. Musique classique avec les Cris de Paris et les siècles, techno avec la DJ Chloé, cirque avec la dernière création de James Thierry, théâtre avec des pièces de Joël Pomera ou Wajdi Mouawad. La programmation française est éclectique et sans doute plus moderne que ce à quoi s'attend le public au Mexique. Pour Marcela Diez, la directrice du festival Cervantino, il s'agit de prouver qu'en musique, par exemple, il y a une vie après Édith Piaf.
Exactement. Quand nous faisons l'invitation au pays, le pays peut choisir ce qu'il veut. Qu'est-ce que nous voulons ? Ça, c'est une autre histoire. Donc, bien sûr, on aimerait faire venir la comédie française. La comédie française, c'est connu dans le monde. Mais il y a un Pomera, il y a des directeurs qui font du théâtre quelque chose de nouveau.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais.
C'est le groupe rock Dionysos qui fait l'ouverture du festival Cervantino ce mercredi soir. Le public mexicain, une découverte pour Mathias Malzieux et Elisabeth Mestre.
C'est un peu spécial pour nous parce qu'on retrouve un gros festival, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et en plus à l'étranger, avec un public qu'on ne connaît pas. Donc c'est un peu tout neuf. Un truc qui est pour nous une autre planète presque. ça revêt une dimension un peu plus magique encore, quoi.
Pour nous, ça va être une fête. En plus, on ouvre le festival, donc c'est génial. Pour nous, c'est un honneur, c'est un grand plaisir. Et pouvoir partager ça avec, justement, dans un pays étranger, avec un public qui ne connaît pas, c'est encore meilleur.
À Guanajuato, ville universitaire, le public est très large, étudiants, familles, etc. Mathilde Monnier, la directrice du Centre National de la Danse, propose un éventail de spectacles intitulé Caravane.
Caravane, c'est le Centre National de la Danse qui devient mobile. Alors ça paraît un peu utopique comme ça, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, on met un peu la maison dans une valise et nous venons donc avec 4 personnes. Et en fait, on propose un ensemble d'activités qui représentent un peu nos activités au Centre National de la Danse. Donc il y a toujours un spectacle. Donc là, on vient avec un jeune artiste qui s'appelle Noé Soulier, qui va montrer un solo. Et puis, il y a beaucoup de workshops pour des artistes, mais aussi pour des amateurs. Et puis à la fin, il y a un bal. L'idée, c'est aussi de dire, voilà aussi ce que en France on sait faire culturellement, les outils incroyables que la France a développés, et la danse est complètement aux avant-postes de ce qui se passe dans le monde. Il faut savoir qu'on est hyper envié par la plupart des pays, et d'avoir aussi cette générosité d'aller sur le terrain, de pas rester entre nous, je trouve ça super important.
Des spectacles qui seront joués ensuite à Mexico après le festival Cervantino.
Sébastien Gédor pour ce tour d'horizon des spectacles français du Festival Cervantino qui débute aujourd'hui et jusqu'au 29 octobre, c'est à Guanajuato au Mexique.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est Edwige Saint-Thomas qui présente ce journal, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
À la une, les professionnels guadeloupéens de l'hôtellerie qui se réjouissent du durcissement des règles appliquées aux plateformes de location en ligne.
Oui, les plateformes de location telles que Airbnb ou encore TripAdvisor devront détailler les conditions de référencement et le classement qu'elles utilisent, comme les prévoit désormais la législation. Patrick Vial-Collet est le président du groupement des hôteliers touristiques de la Guadeloupe. Pour lui, il était nécessaire de mettre fin aux anciennes pratiques.
Toute personne qui voulait un revenu complémentaire prend sa chambre, son appartement, sa maison, sa villa, et au final, ben ça y est, il vend. Il n'est pas forcément commerçant, les prestations ne sont pas forcément taxées, la taxe de séjour n'existe quasiment pas, le personnel qui travaille là n'est pas déclaré. Enfin, c'est un peu la jungle quand même. Donc au final, on va vers de la transparence, permettre à ceux qui achètent en ligne d'avoir plus d'informations. Pourquoi l'hôtel en question ou l'hébergement en question est primé ou a une petite étoile ou un petit cœur, etc. Donc est mis en valeur, on doit savoir pourquoi. Cet hébergement, quel est le taux de commission qui est payé. Et je pense que c'est une excellente chose pour les opérateurs, mais aussi également pour le consommateur.
Des propos recueillis par Ludivine Viollet-Moulin de Guadeloupe Première. La situation financière des collectivités des Outre-mer, notamment celle de Martinique et Guadeloupe, est plus dégradée qu'en métropole, malgré un niveau de recettes supérieur, un constat établi par la Cour des comptes hier dans son rapport annuel des finances publiques locales. En cause notamment, indique l'organisme de contrôle, une masse salariale excessive. En Martinique, un peu plus de 500 personnes se sont mobilisées hier sur les 30 000 fonctionnaires recensés dans l'île pour répondre aux mots d'ordre de grève dans la fonction publique à l'appel de 4 syndicats. Certaines mairies, postes et administrations sont restées fermées. Toujours en Martinique, la desserte des bus du réseau Mosaïque a repris. Aujourd'hui, la direction et le personnel ont trouvé un terrain d'entente sur les questions d'organisation du travail. Depuis lundi, les conducteurs avaient fait jouer leur droit de retrait. Et puis, quel avenir pour la production agricole en Martinique? Cette question cruciale sera à l'ordre du jour des assises de l'agriculture organisées par la collectivité de Martinique en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Les explication de Pierre-Yves Honoré.
La CTM veut lancer une large réflexion sur ce secteur. Depuis les états généraux de l'agriculture tenus à l'issue de la crise de 2009 et les premières assises il y a 30 ans, la situation de notre agriculture a bien changé. Du coup, c'est l'occasion de réunir la profession et les acteurs du monde agricole pour se projeter sur l'agriculture de demain. Avec une question primordiale, l'agriculture sera-t-elle durable ou pas ? Il s'agit de reconsidérer les modes de production et de consommation pour préparer les cultures de demain. Justement, en amont de ces assises, un questionnaire en ligne sera soumis jusqu'au 30 octobre à la population afin de recenser les avis. L'adresse martiniqueagri.collectivitéterritoriale.mq. La CTM attend près de 20 000 réponses. Ces données seront restituées au cours des 7 tables rondes les 5 et 6 décembre au Palais des Congrès de Madiana.
Des explications de Pierre-Yves Honoré de Martinique Première. Excellente journée.
Merci Edwige Saint-Thomas et bonne journée à vous. Il est 12h30, temps universel, 8h30 à Port-au-Prince. Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, c'est terminé. Merci à Jonathan Brady à la réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition sur le site www.rfi.fr, également sur nos applications mobiles. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde. Dans à peu près une minute, un nouveau rendez-vous avec l'actualité internationale sur notre antenne.
Du 11 au 15 octobre, la France et la langue française sont mises à l'honneur à la Foire du Livre de Francfort.
Oh, je voudrais tant que tu te...
Venez découvrir des auteurs francophones, mais aussi des innovations numériques, projets transmédia, jeux vidéo et arts de la scène dans le plus grand salon mondial de l'édition. Retrouvez tout le programme sur www.francfort2017.com. En partenariat avec RFI.
Quel est de préféré, Cosmo.